France Culture.
France Culture. Le souffle de la pensée. Géraldine Mosna-Savoie.
Et vous, quel est le livre qui vous a marqué, celui qui agit encore tel une révélation ? Philosophe, historien et sociologue aussi ont ce livre, cet auteur qui continue à les hanter et qui a insufflé leurs pensées. Chaque semaine, l'une d'entre elles vient nous en parler et aujourd'hui, notre invitée, écrivaine et essayiste, a choisi d'évoquer non pas un texte, mais plusieurs textes, des poèmes, des classiques, de ceux qu'on découvre plutôt à l'école ou au collège, un peu vite, mais que, si on a de la chance ou l'occasion, on peut se retrouver à lire plus tard. Et là, le choc est possible, avec ses poèmes signés Verlaine.
Mais tu as connu Verlaine ?
Ah bah oui, j'ai même assez bien connu. Je l'ai vu souvent au Procope, au Buffet Alsacien, au Jacob, qui est une brasserie de femmes, comme il y en avait de ce temps-là. J'ai parlé assez souvent avec lui.
Et quelle impression te faisait-il ?
Oh, une impression immense, d'un dieu déchu, mais d'un dieu. Je l'ai vu un jour au Buffet Alsacien foutre André Bellessor à la porte. Edmond Lepelletier, qui était un très vieil ami de Verlaine, il le présente à Verlaine, il me dit « Permets-moi, Paul, de te présenter un de nos universitaires les plus brillants et qui ont le plus bel avenir. » Alors, Verlaine, le toise, se bute avec son front de licorne auquel on aurait arraché la corne. Il regarde Bellessor, il pointe sur lui une main magnifique, il avait des mains très belles. Il pointe un ongle, sur Bellessor un ongle, sous lequel il y avait tout ce qu'il fallait pour écrire. Hein. Et il lui dit, toi, t'es pas poète, fous le camp. Alors Edmond Lepelletier dit, voyons Paul, écoute, je t'en prie Paul, tu m'emmerdes toi. Et va-t'en, salveur de mort.
Bonjour Claire Berest.
Bonjour.
Bienvenue dans le souffle de la pensée. Vous avez choisi de parler de Verlaine. On va tout de suite vous poser la question, dans quelques instants, pourquoi ce choix ? Mais d'abord, quand même, cette archive de 1946 de Léon-Paul Fargue, écrivain, poète, qui raconte cette anecdote de Verlaine. En gros, dégage quand t'es pas poète, quoi.
Ah non, mais je connaissais pas cette archive. Non, et c'est un peu vertigineux d'écouter quelqu'un parle de Verlaine comme d'un contemporain,
mais
comme
oui.
De quelqu'un qu'il a croisé au bistrot probablement,
voilà,
avec des grandes chances. C'est intéressant qu'il parle des mains de Verlaine, parce que c'est les mains, ça revient beaucoup dans sa poésie ainsi que dans celle de Rimbaud. Et effectivement, on n'est pas étonné après dans les témoignages des gens qui l'ont fréquenté. On peut tomber sur des témoignages de gens qui l'ont vu comme ça, enfant terrible, dans des colères et qui va tout d'un coup insulter son monde et puis dire aux gens de dégager. Et puis des gens qui témoignaient aussi d'un homme d'une très très grande douceur. Presque discret, et il est déjà insaisissable.
On va revenir donc sur l'homme, sur l'œuvre, parce que c'est une vraie question en fait, qui se pose avec Verlaine. Claire Berès, vous êtes écrivaine, essayiste, je l'ai dit, de vous, on a pu lire récemment cet essai « La chair des autres » qui est paru aux éditions Albin Michel, que vous avez écrit suite au procès des viols de Mazan. Et en exergue, vous avez mis une citation de Verlaine. Pourquoi Verlaine avec les viols de Mazan, pourquoi Verlaine que vous avez découvert et qui continue ? Pourquoi ce choix de Verlaine, Claire Berest ?
Alors une chose, c'est que on a tous des obsessions et c'est vrai que un peu comme un jeu de pistes, il y a deux personnes qui se retrouvent presque cachées dans tous mes livres, qu'ils soient des essais ou des romans, c'est Frida Kahlo, la peintre, et c'est Paul Verlaine. Mmh. Ils sont toujours dans mes livres quelque part. Et c'est vrai que ce texte, ce récit, cet essai, je ne sais pas sur l'affaire Pellicot, s'appelle La chair des autres, qui était pour moi le titre permettait de poser énormément de questions que cette affaire soulève. Et j'ai pris ce vers de Verlaine où il dit effectivement notre âme. Et quid de notre chair. Et il me semblait que pour rentrer dans ce récit terrible, un homme qui est en même temps peut-être un de nos plus grands poètes et qui était lui-même atteint d'une très très grande violence et d'un rapport à la chair pour le moins compliqué, j'ai trouvé intéressant de le mettre à l'entrée aussi de ce récit.
Alors il faut le dire quand même, Verlaine, on connaît ses poèmes qu'on a peut-être appris à l'école, au collège, ce qui n'est pas mon cas. Voilà, Claire Berge, je vous l'ai dit justement.
À travers les gouttes.
Je suis passée à travers les gouttes de Verlaine. Heureusement, aujourd'hui, je me rattrape avec vous. Mais voilà, c'est un homme dont l'œuvre n'est pas peut-être, j'allais dire, lisible ou compréhensible si on n'a pas en tête quand même sa biographie. Le fait quand même de savoir qu'il a longtemps habité avec sa mère, qu'il a essayé de l'étrangler à de nombreuses reprises.
Je rigole, c'est pas drôle du tout.
Et ça, pareil avec sa femme, Mathilde Mottet.
Donc, il a tiré sur Rimbaud également.
Il a tiré sur Rimbaud. Donc, quand même, un personnage qui, aujourd'hui, en 2025, serait un personnage, comme on dit, problématique.
Oui, on pourrait dire, pour employer ce terme qui est particulier,
que vous n'aimez
sans
pas.
Doute cancelé aujourd'hui, notre poète Verlaine. Donc, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'amusant et voilà, qui crée une forme de vertige, de penser que c'est peut-être un des poètes qui est le plus appris dans nos écoles primaires de France et de Navarre. Les sanglots longs des violons de l'automne.
Oui, oui.
Alors, vous êtes passé entre les gouttes, mais la plupart des enfants ont appris à Hanoé ce sublime poème, et voilà, et de parler de la langueur. Sans savoir pour une seule seconde que ce même poète avait écrit peut-être les vers les plus obscènes de la langue française, des poèmes érotiques extrêmement crus, et aussi un homme qui a eu des crises de violence envers les gens qu'il aimait le plus, sa femme, son amant merveilleux et terrible, Rimbaud, sa mère, effectivement, vous l'avez rappelé, Verlaine, était un garçon qui a grandi dans un foyer très protégé. C'est un garçon qui était fils unique, qui arrivait après 15 ans de mariage de ses parents, parce que malheureusement, Madame Verlaine et Lisa n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Il se dit qu'elle gardait ses fœtus dans des bocaux sur son étagère, les fœtus de ses fausses couches. Il a grandi avec cela, Verlaine, mais il était choyé, protégé. Et c'était voilà un petit garçon aimé, et cette mère absolument merveilleuse dans son élan maternel le protégera jusqu'à la fin, ira l'attendre à la sortie de prison, lui donnera l'argent quand il n'y en a plus, lui pardonnera tout, lui pardonnera trop aussi, et effectivement, à plusieurs reprises, dans des crises éthyliques, il attaquera cette mère qui lui mettait des bonnets de coton quand il était petit, parce qu'elle avait tellement peur qu'il prenne froid.
Comment vous, aujourd'hui, Claire Berest, en ayant assisté aussi au procès des viols de Mazan, vous vous dites, comment je peux encore tant aimer Verlaine? Comment, en fait, ça n'empiète pas, ça n'entache pas? Parce que le concept de canceller ou de cancel culture, c'est une chose. Mais on peut avoir des principes, mais comment... est-ce que vous êtes déjà dit, il faut que j'arrête? Est-ce que vous n'y arrivez pas? Est-ce que... Moi, c'est une question que je me pose vraiment avec des auteurs dont je découvre des pans biographiques que je n'avais pas forcément en tête, et je suis déçue. Et je me demande, en fait, si je suis aveuglée par quelque chose.
Je dirais deux choses. C'est que la première, ce que j'aime chez Verlaine, c'est qu'il nous ramène toujours à notre profonde humanité paradoxale. Verlaine nous rappelle à quel point nous pouvons être subtils et violents, à quel point c'est ça notre humaine condition, c'est de mêler le pire et le meilleur en permanence. Donc ce que j'aime chez Verlaine, c'est le miroir qu'il me tend, de qu'est-ce que c'est que l'humanité. Je vous donne un exemple très très vite. Ce matin, j'écoutais très tôt les informations sur une chaîne de notre radio publique, et dans le même mouvement, j'entendais parler de ce tremblement de terre en Afghanistan où les femmes ne sont pas secourues sous les décombres parce que les hommes n'ont pas le droit de toucher des femmes, et donc elles sont laissées à crever sous les décombres parce qu'on n'a pas le droit de toucher leur corps. J'entends un concentré d'horreur, et dans ce même mouvement, j'entends qu'on a retrouvé un sublime tableau de Rubens qui avait disparu depuis si longtemps et qui vient d'être retrouvé. Et ça, de merveille. Et dans le même mouvement, j'ai ce qu'il y a de plus beau dans l'humain et ce qu'il y a de pire. Et Verlaine nous rappelle toujours cela, parce qu'il a écrit des vers d'une subtilité, d'un raffinement, d'une délicatesse. C'est un murmure, c'est une brise. Mais c'est ce qu'il y a de plus juste. C'est jamais des trompettes. Il n'y a rien de déclamé. On est dans ce petit bruit fou de l'humanité. Et d'un autre côté, par sa biographie, par sa vie, par cet homme qui est passé de crise en crise. Il nous rappelle aussi que l'humain, c'est cette bascule permanente vers ce qu'il y a de plus violent, de plus laid, de plus cruel. Donc, je ne pourrais jamais cesser d'aimer Verlaine. Il est un miroir de l'humain.
En fait, c'est un auteur qui n'est pas surplombant. C'est pas Victor Hugo qui est du côté du bien, qui peut être grandiloquent, qui peut déclamer. Au contraire, en fait, on ne peut pas rejeter Verlaine parce qu'en fait, on peut être Verlaine, c'est ça ?
On est tous Verlaine, en tout cas. Il faut se méfier parce qu'on peut tous l'être.
Ouais.
C'est ça qui est très intéressant. Et c'est intéressant que vous parliez de Hugo parce que, comme tous les poètes de son époque, hein, on parle de milieu du 19e siècle, ils sont tous surplombés par le patriarche Victor Hugo. Ils sont tous nés, c'est leur contemporain, hein, Victor Hugo est vivant. À 14 ans, Verlaine envoie un poème par la poste à Victor Hugo, parce que un poème qui s'appelle La mort, voilà, un poème écrit à 14 ans, parce qu'il est cette figure tutélaire, il est là. Et effectivement, on a tous Hugo, parce qu'on l'a tous appris à l'école aussi, en tête des vers qui font appel à ce qu'il y a de plus triomphant, de plus héroïque, mais on est dans une sorte, voilà, de cri lyrique, et bien sûr que Verlaine a une admiration, il lui enverra tous ses recueils par la poste, recueils qui ne se vendent pas. Il est quasiment inconnu hein, à son époque, jusqu'à une bascule, on en reparlera sans doute, quasiment inconnu, mais il enverra tous ses recueils. Et Verlaine est aussi extrêmement influencé par Baudelaire. Il est un des premiers à écrire un texte massif sur Baudelaire, d'accord, Les Fleurs du Mal, 1857. Verlaine, adolescent, lit Les Fleurs du Mal, alors que c'est introuvable. Bon, il s'inscrit dans ça de poète extrêmement surplombant, dans cette lignée-là aussi, et en même temps, lui va être toujours dans le fade, dans le fané, dans cette toute petite musique. Mais est-ce que parfois le murmure ne fait pas plus de bruit que voilà, les clairons?
Est-ce que c'est ce que vous vous êtes dit, Claire Berès, quand vous avez lu pour la première fois Verlaine?
Alors, moi, je l'avais appris hein, enfant, donc j'ai des souvenirs de poèmes, voilà, que j'ai récités enfant.
Un classique, il faut l'apprendre, il faut le connaître.
Mais où on était sans doute déjà touchés. Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Un enfant comprend ça. Ah, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de plus simple. Et en même temps, tout d'un coup, on est déjà dans quelque chose de métaphysique.
On est dans le vrai.
Est dans le vrai. Mais c'est vrai que le choc et du coup l'accompagnement de toute ma vie se fera plus tard. Et je l'ai rencontré pendant mes études, pendant mon année d'agrègue. Je préparais l'agrègue. Je le dis tout de suite sans suspense, que je n'ai pas eu.
Vous n'êtes pas tombée sur Verlaine, peut-être ?
Alors non, mais alors j'étais tombée sur quelqu'un de merveilleux. J'étais tombée sur Julien Gracq en dissertation, parce que cette année-là, une année merveilleuse d'Agreg, il y avait un programme dément. Au XXe siècle, il y avait Julien Gracq, et figurez-vous que quand je commence l'année d'Agreg, Julien Gracq est encore vivant. Il était vivant et il est mort l'année de mon agrég. Il est mort pendant l'année. Je pense que c'est pour ça que les gens, enfin,
ce qui se passe plus ont choisi. Non vraiment.
Bah, c'est
peut-être
rare.
Qu'on va avoir Michel Houellebecq au programme
fait.
De l'agrég.
Peut-être Emmanuel Carrère.
Oui, c'est vrai.
Absolument. Mais c'est vrai que c'était rare d'avoir un programme d'agrég un auteur
donc
vivant.
On va aller voir et Julien Gracq pour travailler avec lui peut-être.
Alors il était très discret. Il était très âgé. Hein, oui. Il était allé. Mais bon. Et il y avait Diderot. C'était merveilleux. Il y avait Dubellay cette année-là également. J'étais très gâtée. Et au 19e siècle, il y avait Verlaine.
Et là,
c'est le choc. Et là,
que
c'est
se
le
passe-t-il,
choc.
Claire?
Ce qui se passe, c'est que tout d'un coup, il n'est pas si fréquent de devoir lire tant de poèmes dans un temps si rapproché. On peut tous avoir une fréquentation, un poème qui nous plaît, où on a envie de séduire quelqu'un. Alors on va trouver un poème, parce qu'on a peur de dire avec ses propres mots. On va envoyer un poème par SMS, pourquoi pas. Et donc on a tous, voilà, on peut avoir un rapport à la poésie, mais tout d'un coup, en lire des centaines, et se rendre compte que cette personne est si proche de nous, que cette personne dit nos angoisses, nos désespoirs, notre angoisse tout simplement d'être un homme dans le sens humain, hein, pas homme ou femme, hein, cette angoisse permanente de notre finitude, de nos ratages. Parce qu'en fait, Verlaine, c'est quelqu'un qui est dans la tentative permanente, dans la tentation évidemment, et qui échoue, et qui se relève, et qui ne fait que d'aller de fêlure en fêlure, contrairement à Victor Hugo.
Oui, il y a quelque chose de plus proche de nous, en fait. C'est ça aussi, ce miroir dont vous parliez, à la fois dans le sublime et dans le monstrueux. Mais le sublime et le monstrueux, c'est des extrêmes, déjà. Alors que là, la petite musique, les petits murmures, être en sourdine, ou même des petites phrases comme ça, c'est quelque chose, en fait, de petit. Et oui, en tant que, je sais pas, homme, femme, ordinaire, on dit des choses un peu plus petites, plus contenues, plus...
Oui, mais qui sont immenses, voilà. En fait, qui disent tout. Mais c'est vrai que on a cette idée, donc Rimbaud, qui va être très très proche de Verlaine, on y reviendra sans doute, hein, son amant terrible, on a cette idée, quand on pense à Rimbaud, tout de suite, c'est une comète. C'est un soleil arraché, il est au-dessus, il est un dieu parmi les demi-dieux, comme a dit Verlaine. Quand on pense à Verlaine, on est plutôt dans une atmosphère de lune. On est dans une lumière comme ça, qui est dans une lueur. Et il y a ce vers très très beau de Mallarmé, au moment où, à la mort de Verlaine, il va écrire ce poème qui s'appelle « Tombeau ». Et il va dire « Et Verlaine, il est caché parmi l'herbe, Verlaine ». Et donc d'un côté, on a le soleil arraché de Rimbaud, et de l'autre côté, on a celui qui est caché parmi l'herbe. Et nous sommes tous cachés parmi l'herbe.
Alors, vous découvrez donc vous avez ce choc clairbéreste lors de votre agrégation avec Verlaine. Donc, c'est quand même bizarre d'avoir un choc pendant l'agrégation, parce que à la fois, ouais, non mais on se dit il faut travailler pour avoir le concours. Il y a un but, en fait, on le découvre pas par plaisir. Même si on peut avoir aussi quand même des chocs grâce à des professeurs, grâce à des cours qui nous montrent l'intimité, qui nous dévoilent l'intimité d'une œuvre, qui fait que cette œuvre va nous devenir une grille de lecture pour plus tard. Mais là, vous parlez presque d'un choc esthétique, existentiel. Vous avez parlé de métaphysique aussi. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous, Claire Berès, vous avez la vingtaine, vous décrivez. Vous rencontrez Verlaine, qui a écrit à cet âge-là, et vous dites, c'est ça que je veux étudier toute ma vie, c'est ça qui dit de mieux, je veux écrire comme lui.
En fait, ça, c'est quelque chose qui s'infuse. Et c'est vrai que moi, quand je passe ce concours, je sais très vite que je ne l'aurai sans doute pas. Je suis pas dans la compétition. Je ne suis pas assez forte sur les matières techniques, probablement. Je me prends cette année parce que j'ai eu le CAPES, que je vais devoir enseigner et que j'ai peur. Et on a raison d'avoir peur, hein. J'ai une pensée pour tous les profs. C'est un métier qui est difficile, voilà. Ouais. Et j'ai peur. Et donc, je m'offre ce luxe de reculer d'un an ma prise de poste en tant que prof. Et une des raisons pour laquelle nous avions droit de le faire cela était, par exemple, de passer un concours de plus. Donc, de passer la grecque. Donc, déjà, je suis un peu moi-même dans une fuite. Verlaine est dans une fuite permanente. Et moi, je suis un peu dans la fuite de devoir enseigner. Je me prends cette année avec un luxe de me plonger dans des textes littéraires. Donc, j'ai très peu la pression du concours. Et c'est vrai que j'ai des profs aussi extraordinaires en agrègue. On passe des heures, c'est des cours de 3-4 heures, hein. On est sur un vers, sur deux vers. Et c'est un très grand luxe, à un moment donné, de suspendre notre condition humaine un petit peu stressante. Je dois me mettre à travailler, je dois gagner ma vie. Est-ce que j'ai bien fait de devenir prof? Et de prendre ce luxe-là, de plonger dans les vers d'un autre qui a vécu les mêmes affres d'une certaine manière. Parce que Verlaine, il nous dit aussi quelque chose qui est notre condition à nous. Verlaine, il sent très tôt qu'il veut être poète, parce que c'est tout ce qui l'intéresse, la poésie. Il vient d'une famille, il y a de l'argent, il est entouré.
Comment on décide ça, selon vous? C'est quoi la mode de l'époque? C'était d'être poète,
non,
comme nous, aujourd'hui,
on veut être...
Influenceur, je sais pas.
Non, justement non. C'est-à-dire qu'il vient d'une famille où ce qu'il faut, c'est avoir une bonne situation. Il a un père militaire, une mère qui est femme de militaire, qui s'est occupée de lui. Et on veut absolument que Paul arrête un petit peu d'être un cancre, d'une certaine manière, et trouve une situation. Il va comme ça passer son droit. Il va être fonctionnaire en écriture à l'hôtel de ville. Ses parents sont rassurés. C'est notre condition à tous. Il a un métier. Il y a de l'argent qui va tomber. La prochaine étape, c'est qu'il trouve une dame avec qui il va pouvoir du coup créer foyer. Sauf que Verlaine, parce que c'est un bon mauvais fils, mais enfin c'est un bon fils, il veut faire plaisir à sa mère, il va essayer de se mettre dans le rang. Et puis aussi parce qu'il aura l'appel toute sa vie d'une forme de confort bourgeois, contrairement à Rimbaud. Verlaine, c'est quelqu'un qui rêve aussi de son petit intérieur un petit peu douillet, qui rêve comme ça d'être à l'abri. C'est très intéressant, pendant la Commune en 70, où il est un petit peu comme ça dans la fuite. Alors par moment, il va prendre des positions parce qu'il est aussi un révolté. En politique, il est assez opportuniste, il va un peu dans tous les sens. Ce que je veux dire, c'est qu'il veut aussi comme ça son petit abri. Il va vouloir épouser Mathilde Mottet, il veut se fiancer, il veut être dans le rang, il veut être comme tout le monde. Et en même temps, il a ce feu, il a cette révolte, il a cette sorte d'incandescence, et la poésie, c'est tout ce qui le passionne. C'est-à-dire que juste après son baccalauréat. Alors, il va passer les concours, tout ça, pour faire plaisir à ses parents. Mais très vite, il essaye de rentrer dans les milieux lettrés de la capitale. Mais il faut s'imaginer, Verlaine est inconnu, ces milieux-là sont inconnus. Il va être connu de 150 lettrés à Paris. En réalité, il va vendre quelques exemplaires de ses livres. Simplement, tout d'un coup, c'est ça, il rentre pour lui, c'est le sommet. Il va rentrer dans ces milieux où on parle de poésie, on parle de littérature, on essaye de déconstruire, il y a eu Baudelaire avant, là il y a des groupes d'hommes, ils vont se retrouver vers les Parnassiens, il va être parmi les Parnassiens, les vilains bons hommes, c'est des groupes de poètes qui font des dîners pour se retrouver. Alors on boit, on fume beaucoup, mais surtout, voilà, on crée des petits poèmes qu'on fait pendant les dîners. Il veut être, parce que c'est ce qui le fait vibrer. Et il est en permanence comme ça, un petit peu entre ces deux appels, le calme, la solitude, le foyer, la douceur, une épouse, peut-être un enfant, et puis l'appel du déchirement, l'appel de tout foutre en l'air, d'enlever tous les carcans. Et finalement, quand moi je passe mon agrég et que je me pose toutes les questions qu'on se pose à 20 ans, comment ça ne peut pas comme ça résonner comme une contemporanéité absolue? Verlaine ne sera jamais passé.
Et encore aujourd'hui, même quand on le découvre comme moi à 40 ans, ça résonne de manière tout aussi juste. Claire Béret, vous avez choisi 4 poèmes de Verlaine, donc on va commencer par en écouter. Mais le tout premier, vous voulez le lire, je vous donne la feuille, vous préférez, voilà, sur votre exemplaire. Ce poème s'intitule « Après 3 ans », on le trouve dans les poèmes saturniens, dans la première section, qui s'appelle « Mélancolia ». Allez-y.
Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promenée dans le petit jardin qu'éclairait doucement le soleil du matin, pailletant chaque fleur d'une humide étincelle. Rien n'a changé. J'ai tout revu. L'humble tonnelle de vigne folle avec les chaises de rotin. Le jet d'eau fait toujours son murmure argentin et le vieux tremble sa plainte sempiternelle. Les roses, comme avant, palpite, comme avant les grands lys orgueilleux se balancent au vent. Chaque alouette qui va et vient m'est connue. Même j'ai retrouvé debout la Véléda dont le plâtre s'écaille au bout de l'avenue, grêle parmi l'odeur fade du réséda.
Bravo Claire Berès pour votre lecture donc de ce poème qui s'appelle « Après 3 ans ». C'est un des premiers poèmes en fait de Verlaine. Il l'écrit quand il a une vingtaine d'années. Donc au moment où en fait voilà, vous découvrez Verlaine, vous avez le même âge que lui quand il écrit ce poème. C'est un poème extrêmement, enfin presque un poème, j'ai envie de dire, de petit vieux.
C'est intéressant.
De petit vieux d'une certaine manière qui se balade dans le
c'est
dans
vrai.
Le jardin.
Je vois ce que vous voulez dire parce que c'est un poème qui parle de nostalgie, qui parle du temps qui a passé. Et est-ce que les choses restent même quand on passe et nous-mêmes nous passerons? Est-ce que le petit jardin sera encore là? Et c'est vrai. Alors on ne sait pas exactement à quel âge il l'a écrit, dans le sens où les poèmes saturniens sont son premier recueil oui. qu'il va publier et qui sont.
Donc il a 22 ans au moment où ils sont publiés.
Voilà.
En 66.
Et c'est forcément un mélange de choses qu'il a écrites pendant différentes années. Et alors Verlaine était un petit peu menteur comme nous tous, et donc il dira j'avais écrit tous mes poèmes, j'étais adolescent, tous ceux des poèmes saturniens. Bon, on sait que
j'avais 12 ans.
Voilà, on sait que tout ça était. En fait, il était un peu plus âgé que ça, qu'il les avait pas tous écrits pendant son lycée. Mais c'est vrai qu'il saisit quelque chose qui est difficile à dire. Et vous remarquerez que Verlaine dit très peu. Il n'explique pas. Il fait ressentir. Il suggère. Et c'est ça aussi la poésie. C'est de ne pas être explicatif, de ne pas être assertif. C'est tout d'un coup de donner cette petite suggestion pour faire ressentir des choses qui sont complexes. Alors après, nous, on sait que ce petit jardin dont il parle est probablement un mélange de deux jardins, de celui de sa cousine adorée, Elisa Moncomble, qui est décédée très jeune, suite à son accouchement. Et il l'aimait profondément parce qu'il avait grandi avec elle. Elle avait été recueillie par les parents de Verlaine parce qu'elle était orpheline. Donc elle était une sorte de sœur plus âgée. Et puis aussi un trouble parce qu'elle était aussi peut-être un peu plus qu'une sœur pour Verlaine, qui avait une attirance, une sorte d'amour, hein, qui est tout à fait resté absolument chaste. Mais elle était un peu plus que cette sœur, et la mort d'Elisa Moncomble a été vraiment une très grande douleur pour Verlaine. Et il parle de ce jardin d'Elisa, qui se mélange probablement en surimpression avec le jardin du Luxembourg, avec notre jardin du Luxembourg, parce que il y avait une velléda au jardin du Luxembourg où les jeunes gens se retrouvaient pour faire la fête, etc. Il n'y avait pas de velléda dans le jardin d'Elisa.
C'est quoi une velléda ?
Alors en fait, c'est une druidesse gauloise, qui voilà une représentation d'une sorte de comme ça de femme un petit peu pleine de nature, un peu sauvage, une femme un peu des bois, et il y aurait eu donc une de ces statues dans le jardin du Luxembourg. Donc nous, on sait qu'il mêle probablement, c'est nous qui dissertons, on ne sait pas exactement ce qu'il pensait quand il l'a écrit, mais il mêle cette idée, quand le temps passe, les roses sont comme avant, les lys également, les mouettes continuent à aller et venir. Ouais. Et moi, je suis un peu plus vieux, et moi, j'ai peut-être perdu des choses, et moi, est-ce que j'ai changé? Est-ce que le plâtre s'écaille? Et cette odeur du réséda, je pense que, en fait, on peut tous l'interpréter, on peut tous ressentir, et on va tous l'attacher à des parfums, à des odeurs, et c'est ça, Verlaine.
Et en même temps, il n'est pas non plus sentimentaliste, c'est-à-dire qu'il ne va pas décrire un sentiment. C'est-à-dire qu'il y a une idée de description, d'impression. Il faut quand même dire que l'impressionnisme naît quand même à ce moment-là.
Absolument.
Donc, il y a quand même une concordance de paysage intérieur. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il n'est ni dans l'idée, ni dans l'abstraction, ni dans le principe, ni du côté du bien, ni dans quelque chose de purement sentimental ou pas de lyrisme avec lui.
Oui, alors après, donc il y a eu beaucoup de recueils,
il y a plein de poèmes différents,
donc mais on là, pourrait en trouver d'autres. Mais à ce moment-là, effectivement, le recueil paraît en 66. On est en plein dans la naissance de l'impressionnisme. On sait que Verlaine a croisé Manet, notamment dans ce salon un peu sulfureux de Nina de Caillas, qui est représentée par Manet sur différents dessins et tableaux, qui était une femme comme ça, un petit peu trouble, magnifique, qui recevait tout ce qu'il y avait d'artistique et de bohème. Il a été aussi proche de Fantin Latour, donc il est conscient des problématiques picturales, et c'est vrai que on a pu dire de certains de ses poèmes qu'ils étaient impressionnistes. Et on sait que l'impressionnisme vient de ce tableau Impression Soleil Levant, qui était à l'origine une critique, c'était une insulte.
Exactement.
Les impressionnistes, voilà, c'est vraiment
ça voulait dire que c'était vague, que c'était flou.
Oui, c'était flou, quoi. Ouais. Et c'est vrai que Verlaine, en tout cas ses premiers recueils, s'inscrit aussi dans même s'il ne fera quasiment partie d'aucune école, mais il s'inscrit dans les réflexions des Parnassiens autour de Ricard, qui crée la revue Parnasse, de cette idée, de l'impassibilité, du beau qui doit exclure absolument tout sentiment, toute effusion. On est loin de Lamartine, quoi. Hein. Et c'est vrai que ce que j'aime aussi chez Verlaine, c'est qu'il va un peu passer dans tous ses groupes, il va faire sienne aussi ses théories, mais en fait, il est toujours à côté. Il n'est jamais totalement impassible, il n'est pas tout à fait parnassien, et il va passer d'une poésie à une autre, mais il est vrai qu'à un moment donné, et il va aller très loin avec cela, notamment en compagnie de Rimbaud, notamment dans son recueil « Romance sans parole » qu'il va écrire en partie en Belgique quand il est en fuite avec Rimbaud, de cette idée d'un poème qui tout d'un coup saisit une vision, un état, et ensuite au lecteur d'y voir, d'y lire de l'amour, de la trahison, de la déception, la mort, l'amitié. Mais ce n'est jamais dit. Et d'ailleurs, quand on entend romance sans parole, il n'y a pas de parole. C'est ce qu'il nous dit. Je ne suis pas en train de vous expliquer les choses.
Il décrit.
Et c'est même au-delà de la description. C'est le sentir. Il sent.
Pourquoi vous avez tenu, Claire Berest, à le lire?
Parce que c'est vrai que j'ai demandé celui-là à le lire, parce que je trouve qu'il y a un petit peu comme un saut à l'élastique de devoir lire un poème qu'on aime beaucoup, surtout en direct à la radio publique. C'est beau de pouvoir lire de la poésie à la radio publique, et je me suis fait comme ça un petit frisson.
Ah, c'est un challenge pour vous.
Voilà, d'en lire un.
Je me demandais si c'était parce que vous y mettiez particulièrement quelque chose de vous, Enfin, que voilà, que votre lecture, parce qu'on lit tous différemment, notamment de la poésie, où on peut être influencé par des manières de déclamer. Certains en lisent à voix haute, d'autres se disent qu'il vaut mieux se le murmurer. On a une voix de lecture qui est totalement différente d'un être à l'autre. Et ce qui est, c'est comme les couleurs, on ne saura jamais comment l'autre perçoit le vert, on ne saura jamais comment l'autre lit dans sa tête. Est-ce que c'est ça? Je me demandais si c'était ça que vous vouliez nous transmettre.
Oui, disons que en me faisant ce petit frisson, ce que j'avais envie, c'est effectivement moi-même de me mouiller, c'est-à-dire de les dire. Les mots de Verlaine. Voilà, parce que...
C'est un peu écrasant malgré tout.
Oui.
Même s'ils sont justes, petits, en sourdine.
C'est toujours écrasant de lire les mots de quelqu'un d'autre, des mots qui nous touchent autant. Et c'est vrai que là, c'est génial d'avoir cette occasion de parler de Verlaine. Et je me suis dit, avant tout, il faut revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est aussi d'entendre sa musique à lui. Et je trouvais ça, de le lire moi-même. J'y mettais peut-être effectivement ma propre couleur.
On va entendre un autre poème de Verlaine qui fait partie du même recueil, de la même section, poème saturnien, Mélancolia, mais lu cette fois par Jean Négroni en 1977. Donc on va entendre sa couleur à Jean Négroni.
Nature, rien de toi ne m'émeut, ni les champs nourriciers, ni l'écho vermeil des pastorales siciliennes, ni les pompes aurorales, ni la solennité dolente des couchants. Je ris de l'art, je ris de l'homme aussi, des champs, des vers, des temples grecs et des tours en spirale qu'étirent dans le ciel vide les cathédrales. Et je vois du même œil les bons et les méchants. Je ne crois pas en Dieu. J'abjure et je renie toute pensée, et quant à la vieille ironie, l'amour, je voudrais bien qu'on ne m'en parlât plus. Las de vivre, ayant peur de mourir, pareil aux briques perdues jouées du flux et du reflux, mon âme pour d'affreux naufrages
appareille.
On vous a entendu sur la fin, Claire Berès. Donc voilà, l'angoisse, ce poème que vous avez aussi choisi. On est quand même dans la même tonalité qu'après 3 ans. Quand même cette tonalité nostalgique qui, moi, me surprend notamment pour quelqu'un qui l'a écrit peut-être au collège ou plus tard, une vingtaine d'années en tout cas. C'est-à-dire que la nostalgie d'une personne presque qui a tant vécu, mais qui lui reste tant à vivre, c'est intéressant quand même que Verlaine, à ce moment-là, vous frappe, parce qu'il y a quelque chose presque de boucher qui empêche de voir, de saisir quelque chose de l'ordre du désir. Là, il n'y a pas de désir, il n'y a plus rien.
Presque, on est presque déjà mort, oui. alors qu'on a 20 ans, mais on a peut-être tous aussi ressenti ça à 20 ans, cette conscience si forte de la destruction et la disparition, à un âge où normalement nous ne sommes couverture que possible. Et pour le coup, je trouvais ça intéressant, même s'ils font partie du même recueil, c'est que là, pour le coup, Verlaine nous dit des choses. Il dit je ne crois pas en Dieu, il dit je ris de l'art, je ris des hommes aussi. Et il dit, on n'est pas dans le petit jardin dans lequel on se promène, donc il est plus
frontal. Alors qu'on est 4 poèmes plus loin.
Alors qu'on est 4 poèmes plus loin.
Du 3e au 8e.
Absolument.
5.
Et il y a quelque chose, plein de vers que je trouve très important dans ce poème, mais je vois du même homme les bons et les méchants. Oui. Il y a cette idée qui revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure ensemble. Verlaine parlera de l'œil double dans un autre de ses poèmes. Cette idée de la dualité permanente, et que précisément pour approcher l'essence de l'homme, il faut approcher en même temps le bon et le méchant, le bon et le mal, pour essayer de saisir quelque chose de réel et de très banal, de qu'est-ce que c'est que l'homme. Et pour moi, dans ce poème, il met déjà en place, peut-être inconsciemment, quelque chose qui, moi, me permet de vivre avec lui pour tous mes livres, pour tous mes romans. Il me permet tout le temps de remettre sur le métier des biais, des opinions. Non, il faut tout effacer, il faut douter.
Et notamment la question du mal ?
Et notamment la question du mal. Alors, gentiment, vous rappeliez en préambule, effectivement, mon dernier livre, La chair des autres, qui est une forme d'exploration du mal. Et qu'effectivement, faire un micro-écart, quand on rentre dans une salle de procès où il y a des hommes qui ont commis des actes abominables, des crimes, il est difficile de ne pas y aller avec des idées préconçues. Et il est difficile de rentrer et de se dire, je vais essayer simplement de rencontrer une humanité pour essayer de comprendre ce qui a chaviré dans cette humanité, ce qui s'est détraqué et s'est embrassé dans le même mouvement des hommes qui peuvent être des gens sympathiques, des bons maris, des bons frères, des bons pères et qui peuvent être aussi des criminels. Et c'est vrai que Verlaine me rappelle en permanence, par sa vie, par sa littérature, qu'il faut toujours avoir un œil double.
Il y a aussi ce vers que moi j'aime beaucoup là dans ce poème, qui, je trouve, je pense, je vais faire mien d'une certaine manière.
Faites-le.
Las de vivre, ayant peur de mourir.
Oui, là,
c'est
il
génial,
parle...
parce que là, on n'a pas un doublé, on est dans un entre-deux.
Oui, là,
coup.
Il parle de son âme, hein. C'est pour ça que c'est au féminin, las de vivre, ayant peur de mourir. Intéressant parce que dans le même recueil, il y a un poème qui s'appelle Lassitude, qui commence dans mon souvenir par de la douceur, de la douceur, de la douceur. Et il demande à une jeune femme de calmer ses transports. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de dire, mais tu as 20 ans, tu es déjà si fatiguée.
Oui!
Si là. Mais on voit cette lassitude où quand on a 20 ans, ou 17, hein, comme Rimbaud quand il arrive, il y a une sorte, comme s'il y avait déjà fort de 1000 vies, comme si tout d'un coup, on redoutait tout, on avait tout compris. Et en fait, on va passer notre vie après, par cette maturité, à redétricoter tout ce qu'on pensait savoir. Mais il y a cette sorte d'immense fatigue sur nos épaules. C'est trop l'amour, le désir, la chair, la
c'est
douleur,
ce qu'il dit,
le deuil. C'est trop, en fait.
Il dit aussi
c'est
l'art, l'homme, les bons, les méchants, le bien, le mal, Dieu aussi, l'amour.
Oui,
avec
Dieu est là, c'est-à-dire qu'il convoque tout le monde. Hein.
Ouais.
Et d'ailleurs, parce que bien après, Verlaine va être quelqu'un qui va être un converti, qui va avoir une sorte de nuit de la foi, de crise mystique, et il va écrire des vers sublimes sur son rapport à la parole du Christ. Hein. Et c'est intéressant parce que Verlaine, c'est aussi tout ça dans une vie. C'est quelqu'un qui dit, qu'il abjure, qu'il ne croit pas en Dieu. Il parle du ciel vide dans lequel sont les cathédrales. Le ciel vide, c'est-à-dire qu'il n'y a rien là-haut, quoi. Il n'y a même pas les étoiles, enfin. Et nous savons après que il va y revenir, et tout d'un coup, parce qu'après avoir été converti, il va retomber dans le péché, dans la luxure, dans la bassesse. Ça aussi nous rappelle en permanence que, voilà, la vie est une longue aventure.
Et en même temps, c'est peut-être aussi un cliché qu'on a sur la jeunesse de se dire qu'ils sont ouverts, qu'on est ouvert à l'avenir à ce moment-là, qu'on est plein d'énergie, plein de vie. Effectivement,
il l'est, hein, paradoxalement.
Je me sentais déjà très fatiguée à 18
oui.
ans.
Après, de fait, il l'est parce que il est comme ça très énergique dans tout le milieu littéraire. Mm. Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il admirera chez Rimbaud, c'est que Rimbaud s'en fout du milieu littéraire. Rimbaud s'en fout d'avoir l'aval des gens qui sont déjà en place. Il va, pardonnez-moi cette vulgarité, il va arriver, il va chier sur la table, Rimbaud. Ouais. Pardon, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et tous les poètes établis vont dire, mais c'est qui ce garnement, quoi. Et Verlaine, lui, il est en même temps, il a besoin du regard de ses pairs. Il a besoin, et avec eux, il sent tous les possibles. Les dîners des vilains bons hommes, ils veulent aussi changer le monde. Mais tout d'un coup, il va être face à ce gamin qui dit, mais ça se passe pas dans les petits milieux et dans les dîners. Il faut se faire voyant, des règlements de tous les sens. On débarque tout. Et Verlaine, de 10 ans plus âgé que Rimbaud, va se retrouver être l'enfant face à ce dieu, ce demi-dieu.
On va écouter un autre poème de Verlaine qui, cette fois-ci, s'appelle « L'art poétique ».
De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voiles. C'est le grand jour tremblant de midi. C'est par un ciel d'automne attiédi le bleu fouillé des claires étoiles. Car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance. Oh, la nuance seule fiance le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de l'azur et tout cet ail de basse cuisine. Prends l'éloquence et tords-lui le cou. Tu feras bien en train d'énergie de rendre un peu la rime assagie. Si l'on y veille, elle ira jusqu'où? Oh, qui dira les torts de la rime? Quel enfant sourd ou quel nègre fou nous a forgé ce bijou d'un sou qui sonne creux et faux sous la lime? De la musique encore et toujours. Que ton vers soit la chose envolée, qu'on sent qui fuit d'une âme en allée vers d'autres cieux à d'autres amours. Que ton verre soit la bonne aventure éparse au vent crispé du matin qui va fleurant la menthe et le thym. Et tout le reste est littérature.
Poème, l'art poétique écrit en avril 1874, qu'on retrouve ensuite dans le recueil Jadis et Naguère, lu toujours par Jean Negroni en 1977. Il est paradoxal ce poème, Claire Béret, c'est peut-être pour ça que vous l'avez choisi, parce que vous avez parlé de Rimbaud en disant qu'il avait chié sur la table, mais là, Verlaine fait la même chose. Elle dit, je vous fais un poème sur l'art poétique et je vous dis que tout ce que vous avez fait jusque-là, ça ne vaut rien.
Oui, il y a vraiment l'ail de basse cuisine mêlé à l'azur. En fait, j'ai choisi ce, déjà peut-être des quatre poèmes que l'on a choisis ensemble, c'est peut-être le plus connu. Presque tout le monde connaît ce vers et tout le reste est littérature. On ne sait pas d'où ça vient, mais on l'a entendu. De même, de la musique avant toute chose, oui. Et pour cela préfère l'impair, celui dans l'air, sans rien dans lui qui pèse et qui pose. C'est quelque chose qu'on connaît instinctivement. Ce qui est très intéressant, deux choses, c'est que, en fait, presque jusqu'à là, et il y a eu beaucoup de recueils presque jusque là, Verlaine est toujours un inconnu de son vivant, je veux dire. Il est connu, voilà, de tout petit cercle. Et de façon amusante et étonnante, il y a deux choses qui vont commencer à créer sa renommée. C'est ce poème qui va d'abord paraître dans une revue, avant de paraître dans un recueil, et qui tout d'un coup va faire parler tout le monde. Et puis il y a aussi une plaquette qu'il va faire, qui s'appelle « Les poètes maudits », où il va parler de Rimbaud, de Corbière, de Mallarmé. Ce sont ces deux éléments qui, tout d'un coup, va faire passer Verlaine de l'anonymat presque à bientôt le prince des poètes, connu de toute la jeune bohème. Bon, donc, pourquoi ce poème-là, oui, particulièrement, dans lequel, oui, vous avez raison, lui aussi, on va redire, chie sur la table, pardon, on est sur France Culture. Effectivement, il dit tout et son contraire. Et puis surtout, plus tard, en 1890, il parlera de ce poème en disant, alors là, ça a fait frémir tout le monde, mais il ne faut pas prendre cela au pied de la lettre. Il va l'écrire, il ne faut pas prendre l'art poétique. Et il dira cette phrase que je trouve très intéressante, il dit, je n'aurais pas fait de théorie. En 1890, il va mourir 6 ans plus tard. Il est déjà très atteint physiquement. Donc, quand il écrit ça, il est un peu à la fin de sa vie, même s'il n'est pas si âgé, il a une cinquantaine d'années. Mais c'est la fin. Il dit, je n'aurais pas fait de théorie. Parce qu'il voit aussi comme ce poème a été récupéré par tout le monde, comme il disait, mais voilà la voie à suivre. Après, nous pouvons aussi y voir quelque chose qui revient au centre pour lui, de la musique avant toute chose. Et qu'est-ce que c'est la musique? C'est ce qu'on disait avec Après 3 ans, c'est de ne pas forcément dire, asséner, être assertif, c'est faire ressentir quelque chose très profondément qui fait bouger le corps. La musique, c'est ça, c'est tout d'un coup le corps, on a envie de danser, ou on a envie de pleurer, ou on a envie de s'agiter.
De suggérer.
C'est cette suggestion et de la musique avant toute chose. Alors, et pour cela, préfère l'impair, parce qu'effectivement, en termes de vers, même s'il est resté dans quelque chose d'assez formel, il n'a pas fait de vers libres, vraiment, Verlaine. Il a écrit de la prose un petit peu, mais ce n'était pas son fort. Hein. Vraiment, c'est très intéressant ce qu'il a écrit, mais il n'a pas fait de roman. Simplement, le vers, il a tout essayé. Et l'impair, c'est le vers de 11 syllabes versus l'alexandrin qui est la noblesse, qui est voilà, le balancement parfait. Et lui, il est venu casser cela avec ses vers de 11 syllabes. Je ne sais même plus comment on appelle ça, en décasyllabes, quand je ne sais plus, avec des vers de 3 syllabes, avec des vers de 5 syllabes. Et tout d'un coup, il s'est rapproché comme ça de la chansonnette, de la chanson populaire, de la ritournelle.
Il parle beaucoup de chansons, il compare beaucoup ses textes à des chansons.
Absolument, même chansons, et dans le titre de beaucoup de ses poèmes, on sait aussi, nous, que beaucoup de chanteurs l'ont chanté après,
oui.
Ferret, Gainsbourg, on sait à quel point les gens se sont emparés, parce que c'est cette air qui vous colle à la peau, et sans même que vous vous en rendiez compte, qui vous parle de choses très très profondes, de votre désespoir en amour, de votre trahison, de votre amitié, qui vous parle de tout ça sans que vous en... qui infuse, sans que vous ne vous en aperceviez. Et je trouvais que, voilà, rappeler cet art poétique...
Il y a quelque chose, en fait, de populaire en Verlaine, mais de populaire au sens de, effectivement, tout le monde peut le lire, on peut se sentir touché, on ne se sent pas écrasé par la voix d'un poète en disant « Ah, c'est de la poésie !» Mais en plus, parce qu'il dit quelque chose, effectivement, on a employé ça plusieurs fois, Claire Berès, de justesse. Il est très juste, c'est-à-dire que, vraiment, Verlaine arrive à mettre des mots tellement simple sur des choses extrêmement complexes sans être dans quelque chose de l'ordre de la morale.
Sans être didactique, sans être dans la morale. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un type qui avait, et on l'a rappelé tout à l'heure, des crises éthyliques massives,
oui,
qui a bu toute sa vie, sauf dans les quelques moments voilà, de conversion, des moments où il essaye de se reculer
de
du
se
mal,
en main, oui,
voilà, de se reprendre en main. Mais c'est quelqu'un qui enchaînait les absinthes jusqu'à l'inconscience, qui avait du coup des crises de violence envers les autres, on l'a dit. Et c'est aussi quelqu'un qui travaillait énormément ses poèmes. C'est pas du tout comme ça un premier jet dans un boudoir au clair de lune, c'est la muse qui parle, pas du tout. C'est quelqu'un qui est besogneux, c'est quelqu'un qui travaille, qui cherche les mots, et justement, il cherche dans un dépouillement, d'aller dans la plus grande simplicité, comme vous l'avez dit, parce que tout d'un coup, bah, populaire, ça vient de peuple, c'est tout le monde. Et il faut que le mot vienne sonner comme une note, mais comme une note évidente. Et c'est un très très grand travailleur. Il reprend ses poèmes. On le voit dans ses échanges avec ses éditeurs, des sonnets. Il va revenir sur chaque enjambement, sur chaque césure. Et donc c'est aussi un très grand orfèvre.
On va écouter un dernier poème, Claire Berest. On va le diffuser en entier. 4 minutes 36 secondes de poème de Paul Verlaine qui s'appelle « Laeti et Erabundi ».
Les courses furent intrépides, comme aujourd'hui le repos pèse, par les steamers et les rapides, que me veut cet atome obèse. Nous allions, vous en souvient-il, voyageurs où ça disparut, filant léger dans l'air subtil, deux spectres joyeux on eût cru. Car les passions satisfaites, insolemment, outre mesure, mettaient dans nos têtes des fêtes, et dans nos sens que tout rassure, tout. La jeunesse, l'amitié, et nos cœurs, que dégagés des femmes prises en pitié et du dernier des préjugés, laissant la crainte de l'orgie et le scrupule au bon ermite, puisque quand la borne est franchie, Ponsard ne veut plus de limite. Entre autres blâmables excès, je crois que nous bûmes de tout, depuis les plus grands vins français, jusqu'à ce pharo, jusqu'au stout, en passant par les eaux de vie qu'on cite comme redoutables, l'âme au septième ciel ravie, le corps plus humble sous les tables. Des paysages, des cités, posaient pour nos yeux jamais là, nos belles curiosités eussent mangé tous les atlas. Fleuves et monts, bronzes et marbres, les couchants d'or, l'aube magique, l'Angleterre, mère des arbres, fille des beffrois, la Belgique. La mer terrible et douce au poing brochait sur le roman très cher qui ne discontinuait point notre âme. Et quid de notre chair? Le roman de vivre à deux hommes, mieux que non pas d'époux modèles, chacun au tas versant des sommes de sentiments forts et fidèles. L'envie aux yeux de Basilic censurait ce mode d'écho, nous dignions du blâme public et soupions du même fricot. La misère aussi faisait rage par des fois dans le phalanstère, on ripostait par le courage, la joie et les pommes de terre. Scandaleux sans savoir pourquoi, peut-être que c'était trop beau, mais notre couple restait quoi? Comme deux bons porte-drapeaux. Quoi dans l'orgueil d'être plus libre que les plus libres de ce monde? Sourd aux gros mots de tout calibre, inaccessible au rire immonde. Nous avions laissé sans émoi tous impédiments dans Paris, lui quelques sots bernés et moi, certaines princesses souris, une sotte qui tourne à pire. Puis soudain tomba notre gloire, tels nous des maréchaux d'empire, déchus en brigands de la Loire, mais déchus volontairement. C'était une permission, pour parler militairement, que notre séparation. Permission sous nos semelles, et depuis combien de campagnes, pardonnâtes-vous aux femelles? Moi j'ai peu revu ces compagnes, assez toutefois pour souffrir, à quel cœur faible que mon cœur. Mais mieux vaut souffrir que mourir, et surtout mourir de langueur. On vous dit mort, vous, que le diable emporte avec qui la colporte la nouvelle irrémédiable qui vient ainsi battre ma porte. Je n'y veux rien croire. Mort, vous, toi, Dieu parmi les demi-dieux, ceux qui le disent sont des fous. Mort, mon grand péché radieux.
tout ce passé brûlant encore dans mes veines et ma cervelle, et qui rayonne et qui fulgore sur ma ferveur toujours nouvelle. Mort, tout ce triomphe inouï, retentissant sans frein ni fin, sur l'air jamais évanoui que bat mon cœur qui fut divin. Quoi ? Le miraculeux poème et la toute philosophie, et ma patrie, et ma bohème, mort. Allons donc, tu vis ma vie.
Un poème écrit par Verlaine, alors qu'une rumeur courait sur la mort de, à propos de la mort de Rimbaud, d'où ce vers que vous avez récité en off dans ce studio, Claire Berès, où il dit « Mort, vous toi,
Dieu parmi les demi-dieux ».
C'est un poème méconnu.
Oui, alors c'est intéressant parce que Verlaine a beaucoup écrit sur Rimbaud. Il a écrit de la prose essayiste, si je puis dire, avec les poètes maudits, avec les hommes d'aujourd'hui, où il essaye de faire voilà, les biographies des grands poètes de son temps. Il a écrit aussi des poèmes, un des plus connus sur Rimbaud est Crimen Amoris. Et c'est vrai que Laeti et Errabundi, qu'on pourrait traduire par les heureux flâneurs à peu près en latin, est bizarrement méconnu, alors que moi, il me donne une chair de poule, enfin un frisson absolu. Effectivement, pour remettre dans le contexte, on est en 87, si je dis pas de bêtises, et il y a une rumeur de la mort de Rimbaud, hein, qui est parti dans les aventures abyssiniennes. On n'a plus de ses nouvelles. Nous savons aujourd'hui qu'il est mort en fait en 91, quelques années plus tard, à Marseille, amputé. Mais à ce moment-là, Verlaine pense que Arthur est mort. Et nous qui dignons du blâme public, c'est-à-dire qu'en fait, il revisite cette aventure qui est très connue, mais qui en même temps ne cesse de nous interroger de ces deux hommes, de ces deux grands poètes, en même temps de furieux amants, et on sait aussi à quel point Verlaine a pu écrire sur l'amour physique entre hommes, dans tous ces détails les plus crus, mais c'est aussi ces deux cervelles qui se rencontrent et qui vont essayer, sous la houlette du plus jeune, de changer, de plonger dans l'inconnu pour trouver du nouveau, de se faire voyant. Et effectivement, Verlaine, je trouve que c'est déchirant parce que on a tous, dans des amours peut-être mortes, des amours qui ne se sont pas comprises, des amours qui ont été si violentes. Rappelons que Verlaine a tiré sur Rimbaud tout de même, il est allé en prison pour cela. Tout d'un coup, vous, toi, Dieu parmi les demi-dieux, la mort est impossible. La mort de l'être aimé. Et il va revisiter, alors nous bûmes de tout, nous eûmes mangé tous les atlas. Il rappelle ces deux gars sur la route qui prennent des trains, qui se font arrêter, qui vont dans des troquets, qui sont hirsutes, mal peignés, et qui s'affichent homosexuels. C'est tout à fait, il y a beaucoup de témoignages de cela. Ils s'affichent, à un moment donné, où je vous rappelle que c'est interdit, l'homosexualité. On peut aller en prison pour cela. Et voilà. Et ce poème, Laeti et Errabundi, ça, moi, mais vraiment, en fait, chaque vers, encore une fois, nous pouvons, nous, y plonger, chacun, homme et femme, dans nos amours, dans nos détresses. Ce temps qui s'est déroulé, c'est-à-dire, et je voudrais dire tout de même aussi que Verlaine, avec tous ses défauts, il en avait énormément, lâche, menteur, violent, tout ce que vous voulez. C'est un homme qui, en revanche, a toujours voulu faire connaître les génies autour de lui. C'est quelqu'un qui a, sans lui, je ne sais pas si Rimbaud nous serait parvenu. Rimbaud a très très peu publié par lui-même. C'est Verlaine qui recopie les poèmes pour qu'on ne les perde pas. C'est lui qui les fait paraître dans des revues. C'est lui qui fait des plaquettes où il parle de Rimbaud. Il n'a de cesse que de dire « Mais regardez le monde, ce qu'il vient de se passer. » Il y a un enfant, le plus beau des mauvais anges, qui est arrivé et il a changé le monde. Et en fait, vous n'êtes pas au courant et il ne va avoir de cesse. Tout comme il parlera de Barbet d'Aurevilly, comme il parlera de Baudelaire.
Comme il arrive aussi à décrire dans ce poème, dans tous les poèmes que vous avez choisis et d'autres de Verlaine, ce qui se passe au plus profond de ces moments de bascule. Qu'est-ce qui fait que moi, toi, vous, à un moment donné, cette personne, ce génie, va faire ce qu'il va faire? C'est presque une question existentielle, métaphysique. C'est plus là, on n'est plus dans la sociologie ou dans le déterminisme. C'est qu'est-ce qui fait que nous, à un moment donné, on fait ça? Et il essaye de se replonger dans ce passé. Qu'est-ce qui a fait que ça s'est passé comme ça?
Pourquoi ça a basculé à tout niveau? Effectivement, Verlaine, tout impassible qu'il ait pu vouloir être dans certains de ses premiers poèmes, est un homme de la crise. Il est la crise.
Le moment où ça
tout
bascule.
Le temps. Il n'est jamais tranquille. Quand il est avec Mathilde, sa femme et leur bébé, Georges, il saute par la fenêtre pour aller rejoindre Rimbaud et pour aller foutre le camp. Quand il est avec Rimbaud, il écrit à Mathilde pour dire « je suis désolée ». Et il y a cette phrase qui dit dans une lettre à Mathilde « désolée d'une certaine manière, mon amour, je fais un mauvais rêve ». Être avec Rimbaud en Belgique, essayer d'être voyant, je fais un mauvais rêve. Presque tout est dit là-dedans. Il y a le rêve, il y a le sommeil, il y a ce qui n'est pas accessible, il y a être déraisonnable, il y a tout cassé, tout décorseté. Mais il a cette conscience-là, je fais un mauvais rêve. Peut-être que ça va passer, peut-être que je vais redevenir tranquille, peut-être que je vais trouver Dieu, peut-être que... Mais d'une certaine manière, Verlaine, il a deux conversions. Il a la conversion à Rimbaud, il a la conversion à Dieu. Et c'est au même niveau. On est presque au même niveau. Et ce sont des moments de crise de foi, de crise de compréhension, d'incompréhension. Et ici, c'est un homme qui est déjà âgé, qui a déjà été sage, qui a déjà eu sa grâce, et qui tout d'un coup se souvient avec la même intrépidité. Après sagesse, après la prison, après tout ça, il se souvient avec la même intrépidité de ces deux garnements qui, par la poésie, voulaient transformer le monde.
Oui, mais lui, est-ce qu'il voulait transformer le monde, Verlaine ? Non, en fait.
Non. Enfin, je dis non, je ne sais pas dans sa tête, mais j'ai l'air de tout savoir sur ce qui se passe dans sa tête. Pas du tout.
Quand non, on lit ses poèmes, non.
Alors, non. Mais il a suivi Rimbaud comme on suit une lumière qui n'est jamais apparue avant. Et c'est parce qu'il y a un mot sur Verlaine d'Anatole France au moment où il est très malade, il est à l'hôpital, je crois que le texte s'appelle « Un poète à l'hôpital », où il dit « Verlaine est un barbare, Verlaine est un sauvage, Verlaine est un enfant ». Mais il a entendu des voix qu'il a essayé de retranscrire, je vous le dis de mémoire, qui n'avaient jamais été entendues avant. Donc d'une certaine manière, Rimbaud veut changer le monde, il veut tout détruire, il veut tout recommencer, il veut trouver autrement. Et Verlaine, lui, il voit cela. Il faut aussi être voyant pour voir les voyants.
Claire Berest, merci vraiment de nous avoir parlé de Paul Verlaine. Normalement, nous diffusons une chanson, mais nous avons pris tellement de temps à écouter les poèmes de Verlaine que je vais passer tout de suite à cette séquence après avoir évoqué donc l'œuvre, l'auteur de Cœur place un auteur que vous n'aimez pas, qui vous résiste. Lequel avez-vous choisi ?
Alors j'ai choisi...
Donc, sans transition là.
Sans transition, voilà, on passe du voyant justement. j'ai choisi André Breton.
Donc un autre poète aussi.
Un autre poète, alors oui, alors un
prosateur aussi,
un théoricien, un prosateur, effectivement un poète qui n'est pas si éloigné hein, chronologiquement, hein, puisque
qui a
on
connu,
est au début du XXe siècle. Alors c'est une bonne question en tout cas.
Non, il est né oui. l'année de la mort de Verlaine.
Voilà,
il est né en 1896.
Il se chevauche, mais
il
donc
était
non,
dans
il
le
se fréquente pas.
Verlainien, mais
il est en plein dans le bain verlainien parce que finalement les 10 dernières années de la vie de Verlaine, Verlaine devient une sorte de marotte aussi hein, pour les gens. Donc il naît dedans. Alors André Breton. C'est pas qu'il me résiste, c'est que j'ai commencé avec lui, que j'ai aussi rencontré dans mes études de lettres, hein, parce que c'est un peu un passage obligé, Manifeste du surréalisme, Nadja. J'ai commencé avec une sorte d'indifférence, il ne me touchait pas, et qui s'est un petit peu augmenté, oh, peut-être pas en détestation, mais alors un agacement, pour des raisons simples. Alors déjà, je trouve qu'il n'a... Très rapidement, il n'a pas bien traité les deux personnes que j'aime beaucoup, Callot et Verlaine. Frida Callot, il estimait qu'il l'avait découverte, qu'elle était surréaliste, et que le Mexique était surréaliste. On n'avait pas attendu hein, André Breton pour que Frida Kahlo puisse peindre. Et puis sa figure tutélaire était Rimbaud, comme on le sait pour les surréalistes. Et il traitait vraiment Verlaine comme un poète pour jeunes filles très mièvres de province. J'ai l'impression que du coup il n'a rien compris. Par ailleurs, un homme qui trouve intéressant d'exclure les autres parce qu'ils ne pensent pas comme lui. Pour moi, ça devient de la tyrannie, et c'est l'exact opposé de la littérature.
Merci beaucoup Claire Berest. De vous, on peut lire La chair des autres aux éditions Albin Michel et aussi L'épaisseur d'un cheveu. Pour lire Verlaine, vous trouverez ses poèmes recueillis dans différentes éditions, Gallimard, Segers, Flammarion. Un grand merci à Manon Delasselle et Corinne Amar, à Nicolas Berger à la réalisation, à Mineta Djawara à la prise de son. Toutes les émissions du Souffle de la Pensée sont disponibles sur le site et sur l'application Radio France.